Le Seigneur vous bénisse.
Est-ce que c'est allumé? Ça marche?
Vous m'entendez? Pas beaucoup. C'est toi qui règle. Ah voilà. Là je m'entends aussi. Bon, que le Seigneur vous bénisse. Ça nous fait plaisir d'être parmi vous ce matin. Ça fait longtemps hein, qu'on n'est pas venu. Ça fait au moins 6 mois. Ouais. Et c'est avec plaisir. Alors, le Seigneur a mis sur mon cœur de vous parler du désert. Je, en toute humilité, j'espère que c'est le bon message pour vous. C'est vrai que on a tous des vies un petit peu difficiles. Faut reconnaître que on vit pas dans un monde facile. Et quelquefois, on a l'impression de traverser des déserts. Et par moments, on traverse au contraire des choses très agréables. Bon, chacun suit sa vie, l'essentiel étant d'être proche du Seigneur. Alors, ça fait partie du cadre des études sur le retour du Seigneur, de la fin des temps. Mais à partir d'un verset qui est tiré du livre des Cantiques, il y a deux versets qui disent la même chose dans le livre de Cantiques, je vais vous le lire, c'est le Cantique 8.5, qui dit « Quelle est celle qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé ?» Et ma conviction, c'est que effectivement, on approche du retour du Seigneur, vous le savez bien, et que ça peut être une parole prophétique. Quelle est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé? Vous savez que les Juifs, aussi dans le livre des Cantiques, le bien-aimé est derrière le mur, dans le livre des Cantiques. Et les Juifs pensent qu'il est derrière le mur des lamentations. C'est extraordinaire. Mais ils ont cette foi que le Messie arrive. Moi, j'aime beaucoup les Juifs. Alors, on s'approche du retour du Seigneur et le monde est en fait un désert spirituel, vous le savez bien, dans lequel les chrétiens prêchent, comme le faisait Jean-Baptiste, pour préparer le chemin du Seigneur. Mais un désert, c'est aussi un lieu tout à fait particulier. Ça peut être un lieu privilégié pour la bénédiction, mais ça peut être aussi un lieu de malédiction. L'épouse de Christ ne pourra pas être prêtre si elle ne se consacre pas à sa préparation. Et tous les messages que je peux faire à droite, à gauche, reposent sur ce travail-là. Préparer l'épouse au retour du Seigneur. L'épouse du roi ne peut pas se présenter à lui avec des taches, avec des rides, avec des pieds de plomb, avec un cœur de marbre. C'est pas possible. Et c'est pourquoi il n'est pas inutile de comprendre le rôle du chemin du désert. Quelle est celle qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé? Par deux fois, le fiancé le dit. Alors, il est également écrit qu'avant le retour du Seigneur, la maison de Dieu sera épurée. Vous savez, c'est partout où je vais, je dis, il n'y a qu'une épouse. Il y a une multitude de dénominations, mais ça, c'est des constructions humaines. Mais il n'y a qu'une épouse, il n'y en a qu'une. Et Dieu la prépare. Et je fais une distinction très nette entre l'épouse et les églises, ou ce qu'on pourrait appeler l'église d'une manière générale. Alors, l'apôtre Pierre nous dit, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. » Et dans le livre d'Osée, Dieu parlait à Israël, et il lui disait, « C'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Je parlerai à son cœur. Et l'épouse de Christ pour son épouse, Dieu a préparé un chemin dans le désert, une espèce de chose étonnante. Et on peut lire dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 43, verset 19, c'est pas la peine de prendre parce que sinon vous n'allez pas en sortir. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Dieu n'a pas créé la terre pour qu'elle soit déserte, mais c'est dans le désert que Jésus a débuté son ministère. C'est là qu'il a fait reculer Satan, et souvent Jésus allait prier dans le désert. Et vous voyez, l'entrée ou la sortie d'un désert est fonction de notre marche, de notre relation avec Dieu. On apprend toujours quelque chose dans un désert, toujours. On y entre pour une cause et on en sort transformé. Parce que Dieu travaille nos vies. C'est lui qui nous sanctifie. Vous savez, et c'est peut-être aussi un encouragement, c'est pas nous qui bâtissons l'église ou l'époux, c'est pas nous, hein. C'est je bâtirai mon église. C'est le Seigneur qui le fait. C'est pas par nos forces, hein. Mon joug est doux et mon fardeau léger, il a dit. Hein, donc c'est lui qui construit. Et il construit quelquefois d'une manière que nous ne comprenons pas toujours. C'est assez frappant de constater qu'un nombre important d'événements se sont passés au désert. J'ai essayé de compter le nombre de déserts qu'il y avait dans la Bible. Je me suis peut-être trompé, mais j'en ai trouvé au moins 17. En réalité, il y a des déserts et des sous-déserts, je veux dire, il y a des parties qui... Ça dépend du lieu, on donne un nom comme ça. Et souvent, quand le peuple de Dieu ou un serviteur ou une servante traversait un désert, il apprenait quelque chose, parce que c'est un lieu de sanctification, c'est un lieu de formation. C'est un lieu qui est marqué par la difficulté, parce que le désert est aride. La Bible, par exemple, nous parle d'un désert affreux, dans le Deutéronome 1:19, qui produit des épines dans Juges 8:7, qui est traversé par le vent dans Job 1:19, et ce vent est brûlant dans Jérémie 4:11. Il disperse et emporte la paille dans Jérémie 13:24. Le désert est inhabité, où personne ne passe dans Jérémie 2:6. C'est un pays redoutable, Ésaïe 21:1. Mais la fiancée monte du désert, au désert des peuples. Dieu va y laisser 99 brebis pour aller chercher celle qui s'est égarée au désert. Et pour ça, il a dû livrer un combat incroyable contre Satan dans le désert, la tentation au désert. Souvent, Jésus s'y est retiré. Luc 5, 11. Jean a reçu la vision de la chute de Babylone dans l'Apocalypse 13, 3. Et Dieu a décidé de changer le désert en étang, Psaume 107, verset 35, en verger, Ésaïe 32, 15, en source jaillissante, Ésaïe 41, 19. Il y poussera le cèdre et l'acacia, Ésaïe 41, 19. Ce sera un Éden, Ésaïe 51, 3, dans lequel un chemin, un lieu plein de joie, Ésaïe 35, 1, en sécurité, Ézéchiel 34, 25. Vous voyez comment Dieu transforme les déserts. Et après vous avoir fait cette introduction, je voudrais vous emmener, promener, dans 7 déserts de la Bible. On va les passer en revue et voir un petit peu les leçons spirituelles qu'on peut en tirer. Et puis à la fin, on fera une petite synthèse et je vous montrerai un transparent qui fera... Alors, je n'ai pas pris les 17 parce que c'est... D'abord, je ne sais pas si j'y arriverai. Et puis, j'en ai pris 7. Voilà. Alors, on va suivre le peuple de Dieu qui est sorti d'Égypte, qui traverse la mer Rouge et qui arrive au désert. C'est une image aussi de nous-mêmes qui sommes appelés, je vous ai choisi. C'est pas vous qui m'avez choisi, dit Jésus, c'est moi, je vous ai choisi. Je vous ai appelé et il nous fait sortir de notre monde, de notre désert. Il nous fait traverser une certaine forme de mer rouge où on y laisse nos péchés et on arrive et pan, c'est le désert. Ça commence. Alors ce premier désert, c'est dans Nombre 33, verset 8, je vous lis. Ils partirent de devant Pin-Hahiroth et passèrent au milieu de la mer en direction du désert. Ils firent 3 journées de marche dans le désert d'Étham et campèrent à Mara. Et dans Exode, on peut lire, « Moïse fit partir Israël de la mer Rouge, il prit la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. » Voilà, ça commence. Ça commence la marche avec Dieu, pas d'eau. Shur, le désert de Shur, ça mûre. Moi, je ne sais pas comment vous avez rencontré le Seigneur. Mais moi, je sais comment il m'a fait avec moi. Et c'était un mur. Je me suis tapé sur un mur. Et j'avais soif de lui. Dans la marche du peuple hébreu, après la traversée de la mer Rouge, c'est le début du chemin. Et tout de suite, ça manque d'eau. C'est fort quand même ça. Hein. Quand même, le Seigneur, il aurait pu nous emmener dans des endroits plus agréables. Ben non. Et c'est la marche du chrétien. Combien de fois on a pu se rendre compte que des jeunes baptisés, ils en prennent plein la pipe, j'allais dire, quelque temps juste après le baptême, même avant. C'est dur pour eux, et quelquefois ils manquent à boire. Combien de fois j'ai vu des personnes qui me disent « Bon, moi je me suis fait baptiser, je lis la Bible, mais je comprends rien. » Tout à l'heure, il y a eu une parole qui disait « Il y a des caches dans la parole de Dieu. » Et j'ai envie de voir ce qu'il y a sous ces caches. J'ai soif de voir ce qu'il y a sous ces caches. Alors, c'est aride, c'est sec. Et c'est vrai, on a un ami qui vient chez nous aux études bibliques et puis il commence à lire la Bible, il s'est acheté une Bible. Mais il dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ce Dieu? Qu'est-ce que c'est que cette violence dans la Bible? Et il se demande, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est ce peuple, il arrive à un endroit où c'est tout sec, il ne comprend pas. Mais pourquoi tu nous as emmenés ici, Moïse? Alors le peuple murmure contre Moïse et par conséquent contre l'Éternel. Et c'est dans ce désert que le peuple va apprendre à discerner. Il commence à apprendre à discerner la différence entre le monde, les sources maudites du monde, et la source bénie de Dieu, sa parole. Mais il commence, et c'est pas facile. Je ne dirai jamais à quelqu'un, c'est facile, tu prends ta Bible, ça va aller tout seul. Non. Il y a une voix qui prêche dans le désert spirituel du monde, et cette voix conduit aux sources du salut. La première chose en traversant ce désert, c'est qu'on est conduit au salut. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Eh bien, figurez-vous que dans ce désert, il est écrit, Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau qui était amère devint douce. Et ce fut là que Dieu donna au peuple des lois, des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Oh! On vient juste de commencer, pense l'épreuve. Et il dit, si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune de ces maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Et ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Et ils campèrent là, près de l'eau. Vous voyez, je dis toujours, dans la vie du chrétien, quel qu'il soit, et même tout au début, alors qu'il est un nouveau-né, Dieu très vite le met à l'épreuve. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas de choses fausses dans nos vies. Une conversion, c'est une vraie conversion. Ça ne doit pas être quelque chose de sentimental. Combien de fois j'ai vu des conversions sentimentales? Est-ce que vous pouvez lever votre main si vous croyez à Jésus? Oui, bien sûr, je lève ma main, etc. Oui, mes frères et sœurs, même le malin, il croit à Jésus. Il n'est pas sauvé pour autant, hein. Et les conversions sentimentales sont fausses et Dieu met à l'épreuve. Et c'est dans l'épreuve qu'il voit ce qui est vrai et ce qui est faux. Alors là, Dieu donne une espérance dans ce monde, mais elle est liée à une condition. C'est la condition d'obéissance à sa parole, même si on ne la comprend pas au début. Et la première chose que Dieu demande, c'est, tu vois cette parole, bien sûr tu ne vas pas la comprendre tout de suite, mais c'est la parole de Dieu. Et laisse-le avec le temps, avec le fait de le lire, Dieu finira par t'expliquer. C'est tout un chemin, c'est tout un chemin. Vous savez, dans le livre des Proverbes, Dieu nous explique ce que c'est qu'un fainéant, un paresseux. Un paresseux, c'est quelqu'un qui met sa fourchette dans l'assiette, mais qui est tellement paresseux qu'il ne va pas la remettre jusqu'à sa bouche. Eh bien, un paresseux, un chrétien paresseux, c'est quelqu'un qui a acheté une Bible et qui ne la lit pas. Un fainéant, il faut dire les choses comme elles sont. Et souvent je dis, tu comprends pas? Ok, je vais te raconter une histoire, je l'ai peut-être déjà racontée ici. C'est l'histoire d'une vieille dame qui dit, monsieur le pasteur, je lis toujours ma Bible, mais franchement je l'oublie aussitôt, ça ne sert à rien, puis je comprends rien. Et le pasteur lui dit, ben écoute, t'as ton panier là? C'est la campagne, hein. T'as ton panier, prends ton panier, va chercher de l'eau. Alors grand-mère qui est très obéissante, elle va avec son panier chercher de l'eau, puis naturellement vous imaginez ce qui se passe, quand elle revient, le panier est vide. Et le pasteur lui dit, ben retourne. Et il fait ça 4 ou 5 fois, la grand-mère est obéissante. Hein. Et puis à la fin elle dit, ben quoi ça servit? Et il lui dit, ben regarde maintenant ton panier, il est propre. Tu vois, la parole de Dieu, c'est une nourriture spirituelle. Tu ne sais pas comment elle agit. Quand tu manges, on va manger tout à l'heure tous ensemble, tu ne sais pas la chimie qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce que ça peut foutre. D'accord? Mais tu prends de l'énergie. Et bien, quand tu lis la parole, même si tu ne comprends pas, le Seigneur fait quelque chose. Et puis un jour, il décolle les scotchs qu'il y a au-dessus de sa parole et tu comprends, oh, ça voulait dire ça. Alors, le premier désert, c'est le désert qui conduit aux sources du salut. Et ce n'est pas pour autant que tout va bien. Et puis, on va rentrer dans un deuxième désert. Dans le livre de l'Exode, il nous dit, « Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et le Sinaï. » Le 15e jour du second mois après leur sortie d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Et il dit, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasirez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous voyez, Sin, le désert de Sin ou de Sin, ça veut dire argile. Nous sommes faits d'argile. Et dans ce désert, on voit se développer les souvenirs du passé. Oui Seigneur, j'ai donné ma vie à toi, je me suis donné à toi. Je commence à comprendre ma parole, je commence à vivre avec toi, je suis sauvé. Mais franchement, quelle vie tu me donnes. Franchement. Et on voit se développer les souvenirs du passé, réaction bien humaine. Mais je vous rappelle une parole de Jésus. Luc 9, 62 dit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Alors on voit dans ce désert de Sin que Dieu va donner la manne et que le peuple va murmurer à cause de la manne. C'est fort quand même. Et le Seigneur nous dit à nous, Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Il a donné la manne, et au bout d'un moment, les Hébreux ont dit « On en a marre de la manne, c'est tous les jours la même chose. C'est pas varié ce que tu nous fais faire, Seigneur. Qu'est-ce que c'est que cette vie ?» Voyez, il faut comprendre une chose, c'est que la vie dirigée par Dieu est totalement différente de la vie passée. Mais qu'il y a une transition qui se fait et qui peut être déroutante. Parce qu'il y a, il se passe une chose, c'est que nos anciennes valeurs doivent disparaître au profit des valeurs de Dieu. Et on est accroché quelquefois à nos anciennes valeurs. Et quelquefois on murmure et on dit « Mais Seigneur, je ne comprends pas. » Seigneur a dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. » Et tout à l'heure, Jean-Luc a cité ce verset « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Moi, quand le Seigneur est venu me chercher, j'allais toujours d'échec en échec dans ma vie. Tout le temps. Et pourtant, je m'étais approché de lui, je savais, j'étais très proche de lui, mais j'allais d'échec en échec. Et je ne pouvais pas reconnaître sa main dedans. Mais progressivement, que ta volonté soit faite et pas la mienne, Seigneur. Progressivement. Et alors j'ai dit, mince, maintenant je comprends. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et vous voyez, il faut considérer ce verset. Toutes choses vous seront données par-dessus. Si on murmure, quand on a donné notre vie au Seigneur, vraiment, sans vouloir en reprendre un morceau, il nous dit « Cherchez le royaume et tout le reste vous sera donné par-dessus. » Eh bien, tout ce qu'il vous donne, c'est lui qui le donne. Mais si tu râles, c'est un affront à Dieu. Eh oui. C'est, si tu as donné ta vie au Seigneur, considère que c'est lui qui la dirige. C'est lui qui la dirige. Et si ça ne te plaît pas, tu vas murmurer, d'accord. Mais ça veut dire à Dieu, la deuxième partie du verset, « Toutes choses vous seront données par-dessus, tu ne la fais pas ?» Qu'est-ce que ça veut dire ça, Seigneur ? Et lui te répond, « Mes voix ne sont pas tes voix. Mes voix ne sont pas tes voix. » Deux choses nous autorisent à regarder en arrière. On peut regarder en arrière pour deux choses seulement, dans la parole de Dieu. D'abord, la première chose, elle nous est écrite dans l'Apocalypse, où il nous dit « Souviens-toi d'où tu es tombé. » Souviens-toi. Alors là, tu peux regarder en arrière quand tu as fait quelque chose de mal. Souviens-toi et comment tu as reçu ton premier amour. Rappelle-toi et reviens là. Tu as fait quelque chose de mal, fais quelques pas en arrière et retourne au point où tu as fait cette chose. Et reprends ton chemin normal. Là, tu peux. Et puis, la deuxième chose pour laquelle on peut regarder en arrière, c'est pour se rappeler des bénédictions de Dieu dans notre vie. Les Hébreux écrivaient, les Hébreux se souvenaient des livres de souvenirs, des bonnes choses que Dieu a faites pour nous. C'est tellement bon, quelquefois, de se rappeler. On perd la mémoire, vous savez, de tout ce que Dieu a fait pour nous. Mais si le regard en arrière se fait avec un esprit de murmure, vous savez, on voit bien que ça s'accompagne d'un jugement à la hauteur de l'affront qu'on fait à Dieu. Et oui, Dieu ne va pas nous laisser comme ça, il va nous secouer. Il va nous secouer les puces. Moi, je ne suis pas du genre à dire aux gens « tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil ». Non. Quand on a fait quelque chose de mal, le Seigneur nous reprend. Parce que c'est un père. Moi, j'ai élevé des enfants, je les ai repris. Maintenant, ils sont heureux, ils sont au Seigneur. Mais je les ai repris. Alors, c'est Dieu qui organise notre vie. Et Paul écrit dans l'Épître aux Timothée, « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Ce que nous avons, c'est le Seigneur qui nous le donne. Eh bien, merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Et merci pour la situation dans laquelle je suis maintenant. Je t'ai donné ma vie, tu me fais traverser ça. Merci Seigneur. » Et ce que vous ne savez peut-être pas, frères et sœurs, mais c'est que le Seigneur, de temps en temps dans notre vie, il nous fait passer un examen, mais il ne nous dit pas ni le jour ni l'heure. Et de temps en temps, il y a une épreuve qui vient dans notre vie, on ne sait pas pourquoi, mais c'est le Seigneur qui teste et dit « Voilà, mon enfant a réussi à traverser ça, il a grandi. » Il veut des hommes et des femmes adultes. Il ne veut pas que nous restions tout le temps des enfants. Donc, vous voyez ce désert, c'est le désert du murmure et de l'impatience. On ne comprend pas encore le plan de Dieu. Ok, on avance, on rentre dans le troisième désert. Le troisième mois après leur sortie d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Alors, je voudrais vous rappeler que le désert du Sinaï, c'est un lieu où Moïse s'est réfugié lorsqu'il a eu tué cet Égyptien. Il s'est sauvé et il s'est mis dans le désert du Sinaï. Il a voulu, voyez, agir selon sa propre volonté. Il a voulu être sauveur du monde selon son propre chemin, selon sa volonté. Ça l'a conduit à être un criminel et à se sauver dans le désert. Et là, pendant 40 ans, eh ben, il va cheminer. 40 ans de désert. C'est là qu'il va recevoir de Dieu son ministère. Dieu va lui dire, « Va maintenant, je t'enverrai auprès du Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » C'est aussi dans ce désert-là, plus tard, que Dieu va donner les lois à Moïse. Les 10 commandements, les 613 commandements. Alors Dieu prononça ces paroles disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte de la maison de certitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Et vous voyez, on rentre dans ce désert en disant, on a déjà fait du progrès, hein, mais en disant « Je fais ce que je veux. Seigneur, je vais te servir, mais tu vas voir. Tu vas voir mes capacités, Seigneur. Et je vais te servir, tu en seras baba. » Donc, tu rentres dans ce désert en disant, Seigneur, je vais te servir, mais à ma façon, et tu vas en sortir complètement discipliné. Après avoir compris que c'est Dieu qui dirige. Celui qui envoie après avoir purifié, c'est lui qui nous fait comprendre que ses commandements, ses préceptes sont bons pour nous. Et nous avons besoin, frères et sœurs, d'avoir nos reins brisés, je m'excuse de le dire comme ça, quand on veut servir Dieu avec notre propre volonté, on fait comme Moïse, on fait comme Abraham qui a fait un Ismaël, etc., etc. Ils ont voulu servir Dieu à leur propre façon. Et le résultat, c'est tout des constructions humaines. Regardez l'état de l'Église, mais regardez tous ces murs qui ont été construits par la volonté des hommes. Quelle honte! Quelle honte! À quoi ça sert? C'est ça la construction humaine? Quelle honte! Et c'est pourquoi le Seigneur veut conduire son épouse au désert pour lui parler. Mais qu'est-ce que tu as fait pendant tous ces siècles? Mais regarde, c'est le désert du brisement et c'est le désert de la discipline. C'est moi qui bâtis mon église, c'est pas toi. Ensuite, on rentre dans le désert de Paran. Paran, ça veut dire verdoyant, rempli de cavernes aussi. Le 20e jour du second mois de la seconde année, la nuée s'éleva de dessus le tabernacle du témoignage, et les enfants d'Israël partirent du désert du Sinaï, selon l'ordre fixé pour leur marche, et la nuée s'arrêta dans le désert de Paran. Bien qu'on sache que c'est Dieu qui dirige nos vies, il arrive qu'on murmure contre lui, parce qu'on ne discerne pas la bénédiction qui est dans nos vies. Et vous savez, ne pas discerner la bénédiction qui est dans nos vies et murmurer en conséquence, c'est une autodestruction. Dans ce désert, le peuple va considérer que la bénédiction de Dieu est une sécheresse. Waouh ! Que dit le peuple dans ce désert ? Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. Nos yeux ne voient que la manne. Or, la manne, c'était justement le moyen de subsistance. Ou autrement dit, traduit en français courant, nos yeux ne voient que la bénédiction, on est complètement desséché. C'est aussi de ce lieu que sont partis les 12 espions pour visiter Canaan, vous rappelez ? 12 espions qui partent pendant 40 jours pour visiter Canaan. Et quand ils reviennent, ils disent « Ah non, on a vu des géants ». Il y en a 10 qui ne sont pas d'accord pour continuer, il n'y en a que 2 qui sont d'accord. On découvre qu'il faudra combattre pour prendre possession de ce que Dieu nous donne. Ah, ça c'est encore autre chose. Ça veut dire quoi, Seigneur ? Tout ce que tu veux nous donner comme bénédiction, il faut qu'on se batte pour le prendre ? Qu'est-ce que c'est que ça, Seigneur ? Eh oui, les géants. Et qu'est-ce qu'ils disent, ces 12 ? Plutôt les 10 qui ne veulent pas y aller. Ils disent les promesses de Dieu. Attends, Seigneur, il y a des promesses dans ta parole, mais les promesses sont pas pour nous. Non, celle-là, vraiment, c'est pas pour nous, c'est trop dur. Ils disent, le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes, nous y avons vu les enfants d'Anak. Alors vous voyez, dans ce désert, soit on a été discipliné pourtant avant, hein, soit on part pour gagner avec le Seigneur, soit on reste et on va tourner en rond. Ils sont partis 40 jours pour visiter, ils ont dit non, ils vont tourner 40 ans. 40-40. Beaucoup de chrétiens tourneront parce qu'ils n'ont pas accepté ce que le Seigneur leur a donné comme mission. Beaucoup de chrétiens tourneront. De parents de ce désert, on part pour gagner ou on reste dans la défaite. Et Dieu nous invite à combattre pour prendre possession de ses promesses. Il nous a dit dans Éphésiens 6, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, etc. Vous connaissez bien ce verset. Et dans Matthieu 11, 12, il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Autrement dit, là, il y a un moteur à mettre en route dans le cœur du chrétien qui a reçu la discipline, qui a appris quelque chose. Maintenant, mets-toi en route. Le Seigneur t'appelle à quelque chose. Et chacun, dans sa vie, reçoit une mission. Vous ne croyez pas que le Seigneur va nous laisser comme ça sur terre pour rien faire ? C'est un truc de fainéant, ça. Non, chacun reçoit une mission du Seigneur. Et c'est à nous à la faire, cette mission. Combien de fois je dis, mais quand on reçoit une capacité du Seigneur pour faire quelque chose, le Seigneur nous demandera des comptes. Moi, je vais arriver tout seul devant le Seigneur. Et il me dira, les talents que je t'ai donnés, qu'est-ce que t'en as fait ? Est-ce que tu as fait fructifier ce que je t'ai donné ? Qu'est-ce que t'en as fait ? Ah ben, j'ai pas fait parce que j'étais trop fatigué, parce que je me suis disputé avec ma femme et je pouvais pas faire. Et puis Seigneur, j'étais tellement pris dans mon travail que, etc. T'as rien fait alors ? T'as rien fait pour mon service ? Ah bon ? Vous vous rappelez ce qui est arrivé à celui qui avait pris son talent et qui l'a enterré ? On lui a pris son talent et pour lui-même. il n'est pas rentré dans le royaume. Hein? Vous vous rappelez de ça? Donc vous voyez, le Seigneur nous invite à continuer. Et il y a des obstacles, vous savez, dans l'Église. Hein? Moi, on a essayé de m'empêcher de faire ceci ou cela, on a essayé de m'empêcher de parler. Eh bien, je le fais ailleurs. Hein? Parce que c'est devant Dieu que je le fais. C'est pas devant les hommes. Vous voyez? Vous êtes responsables chacun de ce que le Seigneur vous a donné. C'est pas le pasteur qui est responsable de ce que vous faites. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vraiment le désert des obstacles insurmontables à vue humaine. Parce que des obstacles dans votre vie, il y en a des quantités. Le travail, les tensions, on est crevé parce qu'on fait une route d'une heure le matin, une heure le soir, etc. Oui, d'accord, c'est des trucs apparemment insurmontables. Mais n'empêche que Dieu fait les choses. Je vous rappelle aussi que, par exemple, dans ce désert-là, David a rencontré une dame qui s'appelait Abigaïl et qui était à l'époque l'épouse d'un homme très méchant. Et bien que l'obstacle était insurmontable, parce que David aurait bien aimé épouser cette dame, mais elle était déjà mariée. C'est une histoire biblique, hein. Et Dieu a permis, par toute une série de circonstances, que cet homme meure et qu'Abigaïl devienne l'épouse de David. Des choses insurmontables. Dieu est capable de surmonter tout. Après, ça va, c'est pas trop long, je vous ennuie pas. Après ça, on passe dans le désert de Tsin. Tsin, ça veut dire petit palmier. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie, elle fut enterrée, il n'y avait pas d'eau pour l'assemblée, comme par hasard encore. Et on se souleva contre Moïse et Aaron. C'est aussi à cet endroit-là qu'il est dit, Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher. Vous vous rappelez? Donc Moïse a désobéi à cet endroit-là. Alors, ce désert de Tsin est encore appelé désert de Kadès, qui signifie consacré, saint. C'est dans ce lieu que les Hébreux vont murmurer contre Moïse et que Moïse va être puni pour sa désobéissance. Étant parti du désert de Paran, le désert de Paran, c'est là où on part pour gagner ou alors on tourne en rond. Ils sont partis de là, ils ont voulu expérimenter ce qui aurait été dans le paradis et puis, enfin, dans la terre promise, et n'y sont pas rentrés. Et à partir de là, Moïse va demander l'autorisation au roi d'Édom de passer sur son territoire. Et le roi d'Édom va lui refuser. Alors écoutez un peu ce que ça signifie, ce que je comprends d'un point de vue spirituel. Israël avait un frère, Ésaü, qu'on appelait Édom. Autrement dit, le roi d'Édom, c'était les frères d'Israël. C'était ses frères. Et son frère l'empêche de passer. Alors écoutez, frères et sœurs, ce que moi je comprends, c'est vraiment le désert des faux frères. C'est le désert des faux frères. C'est le désert des trahisons. Dans ce désert, il y avait un homme qui était un chef qui s'appelait Corée. Et Corée, avec plusieurs d'entre ses fils, etc., se sont révoltés et ont voulu prendre le pouvoir contre Moïse. C'était des Juifs. Ils ont voulu prendre le pouvoir à la place de Moïse en disant « Celui-là, il en a marre, c'est nous qui allons diriger ». Et vous savez que la terre s'est ouverte et que Corée et ses hommes sont tombés dans ce trou. Dieu a jugé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des moments où on passe dans les églises, dans la vie communautaire, par des moments de trahison, par des moments où il y a des faux frères, ceux qui devraient nous aider ne nous aident pas, mais nous enfoncent, par des moments où il y a des gens qui ne sont pas envoyés de Dieu, mais qui vont vouloir prendre le pouvoir dans l'Église. Oui, ça existe. Et c'est une catastrophe. Voyez-vous? C'est dans ce désert qu'on va apprendre la consécration, dans la souffrance, dans l'opposition, de tous ceux qui devraient être nos partenaires et qui deviennent des persécuteurs. On voit bien dans l'histoire que les plus grandes persécutions contre les chrétiens ont été ceux qui auraient dû être des chrétiens. La véritable consécration entraîne la persécution, selon qu'il est écrit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La véritable autorité spirituelle, frères et sœurs, dans une église, dans une assemblée, ça se reconnaît tout de suite. Une vraie autorité spirituelle ne réclame pas l'autorité. Une vraie autorité spirituelle, ça se voit aux œuvres. Vous les reconnaîtrez à leurs œuvres, des œuvres d'amour. Des œuvres d'amour. Prenez l'abbé Pierre. C'est pas une belle œuvre d'amour qu'il a fait. Mais quelqu'un qui réclame l'autorité n'a pas d'autorité. S'il la réclame, c'est qu'il n'en a pas d'ailleurs. Pas vrai? Il n'a pas besoin de réclamer. Et quand vous entendez quelqu'un parler avec l'onction de Dieu, ça se sent. Et quand on me dit « soumettez-vous aux autorités », je vais peut-être vous paraître comme un rebelle, mais moi je ne me soumets pas à n'importe qui. Je veux d'abord voir quelle est cette autorité. Quelle est cette autorité spirituelle? Ce n'est pas le titre qui compte, je m'en fous du titre. Je m'en fous de la fonction. Mais quelle est cette autorité? Vient-elle de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui le dirige? Quelles sont ses œuvres? Quels sont ses fruits? C'est aux fruits que vous les reconnaîtrez. Et vous savez, les fruits, ce n'est pas le nombre dans une église. Quelquefois, on voit des églises, on dit « Ah, oh, c'est une toute petite église, il n'y a presque personne. » Mais qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce qu'il y a l'amour? Est-ce que Jésus est présent? Comme je te disais dans le mail hier, à la Odyssée, il y avait du monde, mais le Seigneur, il y a la porte. Je suis à la porte et je frappe. Il est dehors, on l'a mis dehors. Qu'est-ce que c'est que cette église? Alors, on a construit une construction humaine, voilà. Et c'est bourré de faux frères, parce qu'ils cherchent tous à prendre le pouvoir. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Mais combien de fois j'ai vu, frères et sœurs, dans des églises, des gens qui ont raté leur vie civile, et pour se rattraper, en quelque sorte, ils cherchent le pouvoir dans l'église. Avoir une fonction importante, être vu. Mais ça n'a pas de sens. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire quand ils vont arriver devant le Seigneur? Et c'est pour ça que je dis, il faut vraiment se mettre devant lui. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est toi qui bâtis ton église. Tu ouvres une porte, tant mieux. Tu la fermes, tant mieux. C'est toi qui fais. C'est pas moi. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que je suis persuadé, et je suis persuadé que c'est commencé. Le Seigneur est en train de donner un coup de pied dans la fourmilière, mais quelque chose de carabiné. Attendez-vous à des gros bazars dans les églises. Le Seigneur en a soupé de ça. Il va donner des coups de pied dans les églises parce qu'il va prendre son vent à la main et jeter tout ça en l'air. Hein, et comme je dis, comme on est des grains de blé, quand tu es en l'air en train de tourner, tu sais plus où sont tes pieds et ta tête. D'accord ? Mais l'objectif, c'est retirer la paille. Parce que si vous voulez faire de la nourriture, du pain avec de la paille, vous allez étouffer les gens. Le Seigneur a besoin d'avoir une farine propre. Et donc, tout ce qui est faux, il va le faire tomber. Donc, dans ce désert, on va apprendre à discerner le respect des choix de Dieu, mais aussi à combattre le bon combat. Et dans ce désert de Kadès, il est dit que Dieu tonne. Dieu tonne dans ce désert. Alors, il nous reste deux déserts à voir. Il y a un désert qui s'appelle le désert de Beersheba. Il nous est dit, Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et elle s'égara dans le désert de Beersheba. Donc voilà Agar avec Ismaël qui sont renvoyés et ils se perdent dans le désert. Et ils vont mourir. Ils sont prêts de mourir. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit « Qu'as-tu, Agar ? Ne crains pas, car Dieu a entendu la voix de l'enfant et dans le lieu où il est. » Donc c'est un désert terrible, ça. C'est le désert de l'abandon. C'est terrible. C'est là aussi que Élie est allé se perdre en se sauvant. Vous savez qu'Élie a fait une espèce de dépression à un moment donné, parce qu'il n'avait pas su combattre, il n'avait pas réussi à changer Jézabel. Et Jézabel le poursuivait. Et il s'est sauvé dans le désert de Beersheba. Et là, il s'est couché et il a dit « Maintenant, je veux mourir ». Et dans un seul verset, il est écrit « Il se sauva pour sauver sa vie, il partit pour sauver sa vie, et quand il est arrivé, il demande la mort. » Dans le même verset, ou à deux versets. Autrement dit, il voulait mourir, mais pas de la main de Jézabel. Un désert terrible de l'abandon. C'est vrai que Dieu veille sur ses enfants, en particulier de ses serviteurs, de ses servantes persécutées dans le monde. Pensez à tous ces chrétiens qui sont en Chine, en Malaisie, en tout ce que vous voulez, dans tous ces pays où ils sont persécutés, dans les pays islamiques. Ils sont quelquefois abandonnés. Abandonnés. Et Dieu veille sur ses enfants. Et quelquefois, ça se passe même chez nous, frères et sœurs. Combien de fois on voit des vieillards abandonnés ? Je connais, c'est choquant à dire, mais je vais le dire. On connaît une dame en Dordogne qui est à moitié paralysée sur son lit. Personne pratiquement vient la voir, elle est chrétienne. Pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils ont prié pour elle et elle n'est pas guérie. Alors comme ils ne savent plus quoi faire, ben, ils n'y vont plus. Vous vous rendez compte? Alors elle est toute seule. Il y a sa fille qui vient de temps en temps. Vous voyez? Alors les services sociaux qui s'occupent d'elle. C'est le désert de l'abandon, ça s'appelle. Vous voyez? Il y a des vieillards qui sont abandonnés par leurs enfants, il y a des enfants qui sont chassés de chez eux, il y a des hommes et des femmes abandonnés par leurs conjoints. Et dans toutes ces situations, Dieu peut intervenir. Vous voyez, il y a un point commun dans ce désert concernant l'histoire d'Agar et l'histoire d'Élie, qui tous les deux se sont perdus dans ce désert. Il y a un point commun, c'est que quand il n'y a plus personne pour s'en occuper, Dieu envoie des anges. Ce sont les anges qui se sont occupés d'eux. Vous voyez ? Il y a des déserts où Dieu envoie des anges. Et il nous est dit que quelquefois, on peut recevoir chez soi des anges et on ne s'en rend même pas compte. Ben oui. Et puis, on rentre dans le dernier désert et puis après, on fera un petit résumé, si vous voulez. C'est le désert de Jéruel. Jéruel, ça veut dire maison de Dieu. Mais ce désert est aussi appelé le désert d'Édom, ça veut dire rouge. C'est aussi le désert de Mahon, c'est l'habitation. Autrement dit, comme une habitation rouge de Dieu. Ça, c'est le désert de la dernière extrémité. Oui, le désert de la dernière extrémité, de la dernière minute. De la dernière minute où on s'attend à Dieu, parce qu'après, il n'y a plus de solution. Par exemple, on voit Josaphat, qui est roi de Juda, qui est encerclé, complètement encerclé. Alors, comme c'est un homme de Dieu, Josaphat, il prie. Il se met à jeûner et à prier. Et puis tout d'un coup, il nomme des chantres. Et voilà ce qui arrive. Il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours ». Au moment où il commençait les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir. Ils furent battus. Donc, il était complètement encerclé. Il n'y avait plus de solution humaine. Et tout d'un coup, il dit, « Bon, ben, nous allons louer le Seigneur. » Et quand il commence à louer le Seigneur, les autres sont battus. C'est Dieu qui intervient. Il n'y a plus d'autre intervention possible. C'est le désert, vraiment, de la dernière extrémité. Autre chose qui s'est passée dans ce désert-là, c'est Joram, le roi Joram, qui fait l'expérience d'une délivrance extraordinaire. Il était aussi encerclé. Et il fait appel à un prophète, au prophète Élisée. Et Élisée dit, « Eh ben, vous allez creuser des trous. Creuser des trous, allez. Mais pourquoi faire ? Vous occupez pas, creusez des trous. » Voilà, donc il creuse des trous. Et au matin, par un moyen que Dieu a trouvé, il fait descendre de l'eau de la montagne et ça remplit les trous. Et les ennemis, au petit matin, avec le soleil rouge, ils voient le reflet sur ces bassins et ils disent, ils se sont entretués, c'est plein de sang. Et c'est terminé. Il les laisse. Et les autres peuvent les poursuivre. C'est Dieu qui délivre alors qu'il n'y a plus de solution. C'est aussi le cas où David était encerclé par le roi Saül. Il était à deux doigts d'être mort. Et à un moment donné, Saül reçoit un message lui disant « Tu sais, on est en train de t'attaquer ailleurs. » Alors il laisse tomber et il s'en va. Et David est délivré. Vous voyez, c'est le désert de la maladie mortelle. C'est le désert de l'accident. C'est le désert de la catastrophe imminente. Mais Dieu est capable d'intervenir à la dernière minute et de sauver. On ne sait pas comment, c'est un miracle. La fatalité ne se produit pas. Dans tous les déserts, Dieu met de l'espoir. Tous les déserts ont un début et une fin. Quand on entre au désert, on pense que ça finira jamais. Mais tous les déserts ont une limite. Voyez, le désert de la dernière extrémité, mais Dieu est capable d'intervenir jusqu'à la dernière minute. Même si tu as une maladie mortelle, Dieu peut te guérir jusqu'à la dernière minute. Parce qu'il est tout puissant. Dieu, c'est Dieu. Dieu, c'est Dieu. Il nous fait traverser des déserts, il nous apprend des choses, mais Dieu est tout puissant. Et chacun a son chemin. Et vous savez, il y a quelquefois des gens qui sont arrêtés dans les déserts. Je prends Moïse. Moïse, il a été arrêté dans le désert. Il a vu la terre promise et Dieu lui a dit non. Et quand Moïse a voulu discuter avec Dieu, Dieu lui répond, ne me parle plus de cette affaire. Tu ne rentreras pas. Ça a été sec. Et pourtant, vous voyez, Dieu était bon. Parce que au moment où il y a la transfiguration, quand Jésus monte sur la montagne et qu'il est transfiguré, on le voit avec Élie et Moïse. Donc Moïse est quand même rentré dans la terre promise, vous voyez ? Les refus divins ont toujours un sens. Alors j'aimerais terminer en vous montrant un transparent. On peut montrer le machin là ? C'est un petit schéma pour résumer ce qu'on a fait. Ah, on va mettre dans le bon sens. Attends. Comment ça marche ? C'est comme ça. Bon, alors. Voilà. Alors, au début, on est dans le brouillard. Hein. On est dans le brouillard. Et la vie est amère. Alors, on rentre dans le désert de Shur, et là, on va trouver les sources du salut. On va trouver le salut, mais c'est que le début. Et puis, dans le désert de Sin, où on va rentrer après, on dit, mais je vois pas les bénédictions de Dieu dans ma vie. Qu'est-ce que c'est que cette vie que tu me donnes, Seigneur ? Et, bon, il y a la providence, pourtant, mais je comprends pas ce que tu veux faire dans ma vie. Alors on continue et puis là on commence à comprendre et on veut construire la maison de Dieu avec nos propres mains. Ça c'est vraiment... Bon mais il faut du temps. Hein. Et donc c'est le désert du Sinaï où Moïse, il avait voulu sauver le monde et puis ben, il a eu le droit à 40 ans de désert pour comprendre que c'est pas lui qui allait le sauver, mais qu'il devait être discipliné. Donc c'est le désert où le Seigneur va faire rentrer ses lois dans nos cœurs et nous discipliner. Et puis après, on va apprendre à lutter, parce qu'on va se rendre compte que les choses sont pas si simples, et qu'il faut combattre dans la prière, dans les cieux, et qu'il faut mettre en route un moteur énergie. Il y a l'énergie spirituelle. Alors, mon Dieu des géants, je me sauve, hein. Ça, c'est ou bien on combat, ou bien on s'arrête. Et beaucoup de chrétiens sont en panne. Et quand on lit les paroles de Dieu, on dit oui, mais tu vois, les promesses, c'est pas pour moi. Je vais bien prier pour les autres, mais pour moi, tu sais, je crois que le Seigneur, il m'a oublié. Donc les promesses sont pas pour moi. Et puis de toute façon, j'ai pas cette foi. Et alors, j'ai mis que tous ensemble, nous devons faire quelque chose, mais chacun à sa place. Et surtout, n'empêchez pas l'autre de faire ce qu'il doit faire. Parce qu'il devra répondre devant le Seigneur. Au contraire, encouragez-le. Vous savez ce qu'on fait à la maison ? À la maison, on a commencé des cours pour les gens qui veulent. Donc pendant un an, on fait des cours. Et puis la deuxième année, on dit, ben maintenant, c'est vous qui allez préparer. Parce que je veux que ça soit une pépinière. C'est-à-dire que vous allez montrer à tout le monde, prenez un sujet qui vous plaît, vous l'étudiez, et puis vous faites l'enseignement. Et alors, on apprend aux gens à donner à manger aux autres. C'est la pépinière. Vous voyez ? Vous pouvez pas vous imaginer la joie qu'ils ont de faire ça. La joie qu'ils ont. Parce qu'il ne faut pas qu'on capture la parole. Ce n'est pas moi qui dois toujours parler chez moi. Vous comprenez ? Il faut que les autres sachent le faire. Et puis après, le jour, vous savez, je suis à peu près convaincu qu'un jour, il va y avoir une bonne persécution. Et donc, les églises structurées, ils vont en prendre plein la pipe, surtout de leur porte-monnaie. Et que ben, ça va être tous des petits groupes de maisons. Et bien, si on a appris aux gens à multiplier la parole, personne ne pourra arrêter ça. Hein. Et, même, et pas le porte-monnaie. Hein. Parce que c'est sur le porte-monnaie qu'ils vont attaquer. Alors après, il y a le désert de Beersheba. Maintenant, je suis seul, abandonné. Voyez ? Même les anges veillent sur toi. Même les anges veillent sur toi. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu as quelquefois l'impression que tu es tout seul, abandonné dans ton coin, mais non. Le Seigneur t'aime, hein. Il ne t'a pas choisi pour te relâcher dans 5 minutes. Hein. Et ici, c'est la fin, parce que ça peut être la fin par un accident. Par... Tout peut arriver dans la vie, on n'est pas à l'abri de ces choses. Mais c'est le Dieu qui le permet. Hein. Alors, c'est la fin, il n'y a plus rien à faire, Seigneur, ma vie c'est une vraie catastrophe. Mais non, je suis le Dieu de l'impossible. Et jusqu'à la dernière seconde de votre vie, le Seigneur maîtrise les choses. Voilà ce que je voulais vous dire, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse.